des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre entre deux écrivains italiens de tout premier plan, Cristina Comencini et Paolo Giordano. L'une, Cristina Comencini, est en France à l'occasion de la parution de son nouveau et beau roman au titre magnifique « Être en vie » qui paraît chez Stock. Et l'autre, Paolo Giordano, est en France à l'occasion du festival Italissimo qui vient de se tenir à Paris. Un festival qui fête la littérature italienne et auquel Cristina Comencini a d'ailleurs participé. Bonjour Cristina Comencini.
Bonjour à vous.
Bonjour Paolo Giordano.
Bonjour.
Voilà, vous êtes en face de Cristina. Et je salue votre interprète, Valentina Gardet. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez interpréter Paolo Giordano aujourd'hui. Bienvenue donc à tous les trois. Cristina Comencini, vous étiez venue dans cette émission il y a quelques années pour nous parler de Lucie, qui était parue chez Grasset. C'était l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une paléontologue, qui, confrontée à la désagrégation de son couple, de sa famille, se regardait dans un étrange miroir, celui que lui tendait Lucie, l'australopithèque dont Yves Coppens avait découvert le fossile en Éthiopie en 1974. Vous êtes, je le rappelle pour les auditeurs français, pardon hein, de vous ramener sans cesse à lui, mais la fille du cinéaste Luigi Comencini, dont vous avez été la co-scénariste, avant de voler de vos propres ailes, comme réalisatrice et comme écrivain. L'un de vos longs-métrages, La bête dans le cœur, vous a valu d'être nommé aux Oscars en 2006. Des romans, des pièces de théâtre, des essais, voilà ce qu'on connaît de vous, Cristina Comencini, mais aussi une manifestation monstre organisée avec quelques amis le 13 février 2011 pour destituer Silvio Berlusconi, incarnation d'un pouvoir qui achetait les femmes. Tout ça s'est fini avec 3,5 millions de personnes dans la rue, la plus grande manifestation qu'ait connue l'Italie. Est-ce que ça n'a pas fait de vous, cette manifestation, Cristina Comencini, une figure politique? Vous étiez déjà une figure artistique, mais en plus une figure politique.
Ça a risqué de faire. Ouais. Mais j'étais très attachée à mon métier. Donc, on m'a proposé des choses, mais c'est pas mon métier, la politique. Ouais. Et là, ça a été une manifestation énorme, mais surtout la chose impressionnante, c'est qu'on n'a jamais nommé Berlusconi. On a dit que un pays qui donnait la représentation des femmes comme ça n'était pas un pays moderne, un pays digne. Et donc, en ne le nommant pas, on a été très fort. Parce qu'il était là, mais il n'était pas là.
Ouais, ça faisait rire Paolo Giordano quand je parlais de cette manifestation monstre. Vous aviez suivi, assisté à cette manifestation?
Certo, mi ricordo molto bene.
Oui, bien sûr, je m'en souviens très bien.
In un certo senso, l'Italia, per il suo progresso strano è stata anche.
Et d'une façon assez étrange, l'Italie, dans son parcours, a en quelque sorte anticipé des choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde entier.
Oui, exactement. Alors ça tombe bien, parce que je voulais d'ailleurs vous poser à tous les deux une question aux écrivains hein, que vous êtes sur la situation politique en Italie, un peu compliquée depuis les élections de mars, qui ont vu arriver en tête donc la coalition de droite, extrême droite, avec 37% des voix, suivie par le mouvement 5 étoiles, le premier parti du pays finalement. J'aimerais bien avoir votre avis aussi, Paolo Giordano, mais d'abord quelques mots de présentation. Je rappelle, Paolo Giordano, que vous avez déchaîné les passions à 26 ans dès votre premier roman, La solitude des nombres premiers, paru en France en 2008. Il vous a valu la même année, en fait, le prix Campiello première œuvre et le fameux prix Strega, qui est une sorte de prix Goncourt puissance 10 ou puissance 15, faisant de vous d'ailleurs le plus jeune auteur à avoir été couronné par ce prix, remporté par exemple Moravia, Primo Levi ou encore Umberto Eco. Après ce livre traduit dans 30 langues, qui s'intéressait aux vies parallèles de deux adolescents malmenés par la vie, qui vivaient, comme vous l'écriviez, une amitié bancale et asymétrique composée de longues absences et de grands silences, et qui, quand même, cette amitié finalement les aidera à cicatriser leurs blessures, à grandir, à s'émanciper du pays. Après ce livre, il y a eu Le corps humain, et puis Les humeurs insolubles, c'est publié au Seuil, ces deux romans. Il y a eu des pièces de théâtre, des textes pour la presse aussi. Qu'est-ce que vous faites dans la presse exactement, Paolo Giordano? J'ai vu passer des articles sur des groupes de musique, il y a eu des reportages aussi en Afghanistan.
Mais en réalité, c'est une activité.
En réalité, c'est une activité parallèle
qui permet de sentirsi in vita, essere in vita.
Comme le font beaucoup d'écrivains, cela permet de se sentir en vie pendant les phases d'écriture qui peuvent être très longues.
Et d'une attività molto varia, che va dagli articoli su.
Donc j'écris des choses très diverses, ça peut être des articles sur l'actualité, mais aussi beaucoup sur la culture.
Et qu'est-ce que vous apporte cette activité de journaliste par rapport à l'activité de romancier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à mieux saisir le réel, qui vous ouvre des perspectives?
In realtà non riesco a mettere molto in in relazione le due cose.
En réalité, je ne peux pas trop faire le lien entre ces deux types de travaux.
Per me che scava molto più in profondità e molto più.
Parce que quand on écrit un roman, on puise dans quelque chose de beaucoup plus profond et dans une lenteur. C'est un temps presque jurassique quand on écrit un roman.
Di un articolo lungo, però di sicuro è un modo per sperimentarsi.
Tandis que écrire pour un journal, on est plus dans la contemporanéité. Donc c'est très différent, mais j'aime bien essayer ces deux temporalités.
En mai, sort en mai en Italie votre nouveau roman. Pardonnez l'accent pitoyable en italien que j'ai. Dévorare il cielo, c'est ça? Dévorer le ciel, manger le ciel, exactement. Qui parle d'engagement écologique, d'embrigadement aussi dans une sorte de secte avec des jeunes gens. Et vous prenez deux de ces jeunes gens, une fille et un garçon, sur 20 ans, en fait, de leur vie, donc de leur adolescence tardive jusqu'à leur vie d'adulte. C'est un roman que vous définiriez comme politique aussi, entre autres, il y a une dimension politique?
Oui, je pense que ce roman a une dimension politique, peut-être la plus explicite d'ailleurs de tout ce que j'ai écrit jusque-là.
Anche se questa idea della dimensione politica è sempre un concetto per me un po' sfuggente, perché io trovo che possano essere.
Et cette dimension politique, je trouve que c'est un concept un peu fuyant, parce que des histoires qui sont très intimes peuvent aussi être politiques quand elles affrontent les choses avec beaucoup d'honnêteté, des lieux et des faits de façon très honnête.
Je voyais Cristina Comencini acquiescer quand Paolo parlait d'intimité et de politique.
Très d'accord, parce qu'on m'a toujours dit que je ne m'occupais pas directement de la politique dans mes romans. Je suis très contente de ne pas le faire directement. Et je suis au contraire complètement d'accord avec lui, parce que quand les relations entre les gens changent, quand les situations, les lieux changent et on les raconte, ça c'est aussi la politique. C'est quelque chose qui est en profondeur, mais qui n'est pas la politique des gens qui s'en occupent, qui font les lois et tout ça, mais qui donne raison avec nos systèmes, c'est un système littéraire, de ce qui change dans nos mondes, en pire.
Dans les mentalités aussi
Oui, dans les relations, disons, dans les mentalités, dans les relations, dans la fin de quelque chose et dans le début incertain d'autre chose. Et donc c'est vraiment ce qui est politique dans ce sens-là.
On a suivi en France évidemment les péripéties de la vie politique italienne avec ces élections de mars dernier qui ont vu finalement triompher à la fois plutôt des gens d'extrême droite et à la fois les populistes de Cinque Stelle et le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Précisément, pourquoi dans ce contexte de l'Italie, alors que on se souvient d'une longue tradition d'écrivains italiens, je pense à Pasolini avec ses écrits corsaires, je pense à même Umberto Eco avec les Bustina di Minerva où il parlait exactement de l'actualité, de Moravia qui était aussi journaliste. On n'a pas vu tellement les écrivains italiens se manifester face à ce populisme qui montait. Qu'est-ce qui vous a, vous, peut-être dissuadé d'intervenir en tant qu'écrivain?
Parce que je pense que les écrivains sont le miroir de l'incertitude politique. C'est-à-dire qu'on est dans une confusion aussi. Parce que la gauche, pour ne pas avoir fait le tour de soi-même, dans tous les pays, je pense, n'a pas su s'innover. Et ce qu'on appelle les intellectuels, moi j'aime pas beaucoup le nom, mais disons les gens qui écrivent, qui font leur métier dans le côté intellectuel, sont dans la même affaire. On est le miroir l'un de l'autre. Donc le problème, c'était quoi écrire dans cette situation. Mais je pense qu'on devrait quand même le faire. Mais je pense qu'on devrait bien y penser, parce que quand une masse de gens, une population entière ne se sent plus représentée par la gauche. Et donc, il y a un problème de qu'est-ce que c'est la gauche? Qu'est-ce que c'est un parti de gauche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est, nous, qui ont été toujours de gauche? Donc
c'est un problème qui est lié à la gauche, simplement. On pourrait dire que dans Cinque Stelle, il y a aussi des particules de gauche, au fond.
C'est pour ça. Oui. C'est que la gauche, disons, dans la tradition du parti, en Italie, Parti communiste, après ça a changé beaucoup de nom, maintenant c'est Parti démocratique. C'est un parti qui devrait être un parti nouveau, réformiste, qui parle aux gens, qui parle aux gens qui ne sont pas l'élite, qui parle aux gens qui ont des grands problèmes de travail, de survie, de vivre, et il ne parle plus à ces gens-là qui ont voté les populistes. Donc ça, c'est le problème qu'on a en face. Mais pas seulement en Italie, je pense.
Oui, mais ça, on peut le dire. France. Un écrivain peut prendre la parole pour justement interpeller la gauche ou un parti ou une famille politique dont il sent qu'elle n'est plus à la hauteur. C'est aussi le rôle des écrivains, en Europe, en tout cas. Ou d'ailleurs, on a vu aux États-Unis, au moment où l'ascension de Trump, on voyait les plus grands écrivains, Richard Ford, par exemple, Martina Hingis, qui est lui anglais, mais qui vit aux États-Unis. On voyait des écrivains prendre la parole.
Peut-être qu'on n'est pas capable, mais avant de dire ça, je pense que on réfléchit et puis on peut interpeller des gens qui sont nos interlocuteurs. Si on sent que les interlocuteurs sont faibles, ils ne nous représentent pas, ils ne nous renvoient pas la balle, ou bien ils se divisent, comme ça a été le cas de l'Italie, dans une situation incroyable, sont divisés entre eux, alors vraiment on a la sensation à qui on doit écrire.
Paolo Giordano, sur cette question du non-engagement des écrivains italiens.
Sono molto d'accordo sul fatto che ci sia confusione, ma è addirittura peggio.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Cristina sur cette question de confusion, mais je pense que c'est même pire. Aujourd'hui, on est presque dans une sorte de marécage.
Vicini al problema di quelli che Cristina non vuole chiamare intellettuali, però sta proprio lì il problema, cioè in Italia.
Et le problème de la gauche aujourd'hui est lié aussi à ce que Cristina ne veut pas appeler les intellectuels.
Che è qualcosa che forse qui in Francia non si riesce a capire così a fondo, ma forse la più che esprimersi in maniera.
En Italie, en tout cas, on est face à une sorte d'antipathie, de méfiance envers les intellectuels. C'est peut-être un petit peu différent en France. En tout cas, en Italie, ils devraient peut-être s'exprimer face aux résultats des élections et peut-être se poser aussi la question de pourquoi il y a aujourd'hui cette antipathie, cette méfiance envers eux. Donc, c'est un travail à faire vraiment en amont.
L'impressione, secondo me, per molti scrittori che hanno avuto i loro sentimenti rispetto a queste elezioni.
Alors l'impression qu'on peut avoir, c'est que les écrivains, en réaction à ces résultats électoraux, ont plutôt été parler à ceux qui sont déjà d'accord avec eux, alors qu'il faudrait plutôt aller parler aux autres personnes susceptibles de vous écouter, qui ne sont pas forcément d'accord. Donc il y a cette distance qu'on ressent aussi dans les articles de journaux.
Donc c'est un constat, Cristina Comencini, d'inutilité finalement de la parole de l'écrivain, en tout cas en dehors de ses romans.
Non. Je pense que ça a été très utile et ça pourrait être utile dans le futur. Mais probablement, il faut refonder la politique. En Italie, il y a un énorme problème sur ça, que les populistes expriment de leur façon, qui n'est pas la mienne, mais que doit être assumé par la gauche. Le gouvernement Renzi a fait des choses très importantes, mais la façon dont ils ont communiqué ça pendant les élections a été pénible, parce qu'on a eu la sensation que c'était quelque chose qui était renfermé, qui ne s'ouvrait pas à la société.
Oui, mais ça, encore une fois, pardonnez-moi, mais un écrivain peut prendre la parole pour interpeller justement un intellectuel ou un romancier ou un cinéaste, d'ailleurs on peut le faire aussi dans différents supports, dans différentes formes d'art, mais interpeller sans attendre que les choses changent avant de prendre la parole. C'est aussi parfois dans l'histoire, ça a été des grandes voix, des grands écrivains ont changé parfois les choses. C'est pour ça que je parlais de constat d'inutilité, j'ai l'impression qu'il y a ça. Ça sert à rien, ils sont fermés, donc autant écrire des romans, quoi.
Non, disons, écrire des romans toujours, même, parce que c'est important. Mais Paolo Giordano disait ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a une distance qui s'est créée entre les intellectuels et les gens, et une distance qui s'est créée entre les gens et la politique. Donc il faudrait parler. Vous avez rappelé la grande manifestation, non ? Là, c'était 20 femmes. On pourrait les appeler des intellectuels, parce qu'il y avait des historiennes, des philosophes, il y avait des très jeunes et tout ça. Et ils ont parlé au pays directement. Alors c'est ça qu'il faut faire un peu dans le champ de la politique. Il faut parler aux gens directement, parce que de reprendre, de réécrire dans les journaux comme ça, ça va être loin d'eux, ça va pas. Et en plus, comme nos interlocuteurs sont maintenant divisés, ils se disputent, on sait pas. Donc on n'a pas ni d'interlocuteurs dans le pays, ni d'acteurs dans le pays. Donc il faut faire des choses un peu comme on a fait pour Senora Quan, je pense.
Et Paolo Giordano.
Et secondo me, in Italia c'è in realtà un sentimento molto più diffuso.
Selon moi, en Italie, il y a aussi un sentiment très diffus qui est sous-jacent, en tout cas chez les intellectuels, c'est qu'ils essaient de voir un petit peu comment vont se passer les choses et d'attendre peut-être de voir comment ces nouvelles forces qui s'imposent vont peut-être aboutir à quelque chose avec des bouleversements et une naissance d'autre chose.
Qualcosa ne nasce. È una, sappiamo che è una situazione storicamente molto pericolosa. Io questo sento.
Mais je pense que c'est une situation très dangereuse parce qu'on sait qu'il y a un très grand risque dans ces moments-là.
Molto più diffuso di
Mais cette forme de curiosité qu'on retrouve aussi chez des personnalités de gauche est très répandue et plus qu'ils ne veulent bien l'admettre.
Dernière question politique et finalement romanesque. Est-ce que les deux leaders actuels qu'on a vus émerger, alors Beppe Grillo depuis un bout de temps, mais Matteo Salvini par exemple de la Ligue, est-ce que ça ne ferait pas des personnages romanesques formidables, Cristina Comencini?
Mais pas vraiment très intéressant.
Moi non plus.
Non, non, je ne pourrais pas m'inspirer. Oui. Non, parce que ça surtout, ils ne sont pas romanesques. Oui. Il n'y a rien de romanesque. Oui. Il n'y a pas quelque chose de...
Ou grotesque,
pour moi.
Chose,
oui, il y a le grotesque. Moi, j'aime
les
pas...
grands personnages de bouffons, par exemple.
J'aime pas le grotesque parce que ce ne sont pas des bouffons en même temps. Ce sont des gens qui...
Beppe Grillo était un humoriste.
Oui, Beppe Grillo, il est un humoriste. Mais... Les jeunes qui ont pris le relais de Beppe Grillo, qui maintenant est un peu s'est mis derrière, disons, c'est des jeunes, moi, on ne les connaît pas. Hein. Il faut dire une chose, les personnes qui sont là, pas dans la Lega, parce que la Lega a fait de toute façon une expérience régionale ou locale, mais les gens du mouvement 5 étoiles n'ont rien fait. Mmh. C'est-à-dire, peut-être qu'ils feront très bien, mais ils n'ont rien
fait. Ils sont à Rome, ils ont la mairie de Rome, quand même.
Et oui, et Rome est en débâcle total. C'est-à-dire, et donc, si on doit se baser sur ça, seulement sur ça... Oui. On a, comme dit Paolo, c'est un risque énorme. Et on espère qu'il y aura quelqu'un qui sait quoi faire.
Pas de roman pour vous autour des figures de Cinque Stelle ou de Salvini, cette espèce de nouvel homme apparu comme ça.
C'est pas pour en tout moi cas. Vraiment. Mais je crois que l'Italie devrait commencer sérieusement à. Forse, un romanzier devrait interroger questo, parce que. Questo culto della singola persona continua.
Je pense qu'en Italie, il faudrait commencer, en tout cas qu'un romancier s'intéresse sérieusement à cette question du culte de la personnalité.
Politica dentro Berlusconi da quando avevo 18 anni. Ma dopo ho visto altri culti della personalità.
Moi je sais que dans ma vie politique depuis mes 18 ans, j'ai toujours été soit sous Berlusconi, soit sous d'autres figures comme ça, par exemple Renzi, puis Grillo, puis peut-être maintenant Salvini comme on peut le voir dans les journaux. Et il serait peut-être nécessaire d'écrire un roman sur ce besoin qu'ont les Italiens d'une figure, d'une personnalité comme ça.
On continue avec vous Cristina Comencini et vous Paolo Giordano, on va parler de vos romans. Cristina Comencini, vous publiez votre nouveau roman chez Stock, Être en vie, c'est l'histoire de la rencontre entre deux personnages, une femme et un homme, à Athènes, en Grèce, où viennent de se suicider leurs parents et qui vont être confrontés à l'élucidation de cette double mort souhaitée et à leur passé, tout en se liant d'une très belle manière. Il est question des relations mère-fille, de l'enfance, thème très important chez vous, comme d'ailleurs chez Paolo Giordano, et peut-être aussi d'une certaine idée de ce que c'est qu'une vie humaine. On en parle tout de suite, mais on écoute votre choix musical. Vous avez choisi un certain qui, évidemment, la Grèce est très présente, mais évidemment, Zorba le Grec aussi est très présent dans ce
livre. Exactement, c'est le film.
Ouais, voilà.
Parce que ce film, et en plus, a un rôle dans le... Mm-hmm. C'est pas seulement certes qui c'est évidemment la Grèce, dans le sens plus banal du terme, mais le Zorba le Grec, qu'on a oublié, on le voit jamais plus, il y a cette scène merveilleuse...
Avec Anthony Quinn.
Oui, j'ai mis l'exergue dans le livre.
Exactement.
Non, exactement, c'est quel merveilleux désastre. Mm. Parce que même un désastre peut être merveilleux dans le sens qu'on est en vie.
Exactement. On écoute donc Zorba le Grec d'après donc le roman de Nikos Kazantzakis et on parle de votre roman, Cristina.
Thank you.
Zorba le grec, vous avez reconnu voilà, ce magnifique Sirtaki. C'est le choix musical de Christina Comencini. Elle passe cette heure avec nous et avec Paolo Giordano. La musique joue un rôle dans votre travail d'écrivain, puisque je rappelle que vous êtes aussi cinéaste, Christina.
La musique ne joue pas de... Elle est totalement libre par rapport aux mots. C'est-à-dire que j'adore la musique, surtout la musique classique, je vais beaucoup au concert, mais je ne peux pas écrire quand il y a la musique. La musique est tellement forte pour moi qu'elle prendrait le relais par rapport à la parole. Donc je peux seulement écrire dans le silence. Et quand j'écris des fois avec une musique, tout était raté. Il me semblait énormément beau quand je le relisais en écoutant la musique, et puis quand dans le silence, c'était raté. Donc c'est deux manifestations artistiques qui ne peuvent pas être ensemble, parce que je pense que la musique, c'est vraiment le maximum.
Ah oui, le maximum, c'est-à-dire le maximum de beauté. L'art par excellence, vous diriez ?
Un peu, oui. Parce que
plus c'est... que le cinéma, plus que la littérature, plus que...
J'ose le dire. Oui. J'ose le dire.
Vous partagez ça, Paolo Giordano ?
Abbastanza, sì. È stato, in realtà, la musica è stato, era il mio vero, la mia vera ambizione fino ai 25 anni, fino prima di iniziare.
Alors, je suis assez d'accord, oui. Moi, la musique, c'était aussi, en fait, c'était mon ambition jusqu'à mes 25 ans, avant de commencer à écrire. Et heureusement, je n'avais aucun talent musical, ce qui m'a permis de rester un auditeur pur.
Alors, Christina Comencini, donc écrivain, réalisatrice, je rappelais que La bête dans le cœur, adapté d'ailleurs par vous de l'un de vos romans, vous avez valu d'être nommée aux Oscars en 2006. Vous avez été l'organisatrice en 2011 de cette manifestation énorme pour destituer Silvio Berlusconi, d'abord montée par une vingtaine de femmes. Et tout le monde est descendu dans la rue. Berlusconi était pour vous l'incarnation d'un pouvoir qui achetait les femmes. Vous publiez chez Stock donc ce nouveau roman, Être en vie, qui est traduit l'italien par Dominique Vitoz et qui nous raconte la relation de deux êtres humains qui se rencontrent parce que leurs parents se sont suicidés. Alors, l'un de ces personnages est une femme, Caterina, qui a eu deux vies. D'abord, la première, jusqu'à 6 ans, une vie de misère, elle était incapable de marcher, incapable de parler. Et puis après l'âge de 6 ans, une vie finalement de libération dans la famille bourgeoise qui l'a adoptée et au sein de laquelle elle est parvenue à se construire comme une femme plus forte. L'autre, eh bien, c'est un homme, Daniele, et c'est le fils du compagnon de la mère adoptive de Caterina. Pourquoi se rencontrent-ils ? Parce que ces deux personnes s'aimaient. Ils ont choisi de mourir ensemble à Athènes et elle est appelée en fait pour s'occuper des corps. Dans une chambre d'hôtel, elle les retrouve, ces deux êtres qui ont jadis été vivants et qui ne sont plus vivants. Et elle va rencontrer Daniele, ils ne se connaissaient pas, ils ont le même âge, ils partagent la même douleur, ils vont apprendre à se connaître, loin de leur monde habituel, loin de l'Italie. Et en se regardant, vous parliez de miroir d'ailleurs tout à l'heure, un peu comme dans un miroir où les fantômes de leur propre enfance vont se manifester.
J'avais envie d'écrire un livre sur le poids des origines. Athènes, c'est une origine de tout le monde, en plus. Sur les origines, dans le sens que Caterina, c'est une fille, enfant qui a été adoptée, donc ça vient à l'esprit, évidemment, ses deux vies. Et elle est liée à la vie précédente, qui est une vie malheureuse, mais où elle sentait beaucoup. Et du fait qu'elle ne pouvait pas parler, ça, c'est les pages, à mon avis, que j'aime le plus dans le livre. C'est la reconstruction d'un monde qui est le monde enfantin, où on ne peut pas parler, parce qu'elle ne peut pas parler, elle ne marche pas, mais les sensations sont énormes, sont très fortes. Et donc ça, c'est l'histoire de Caterina, et maintenant c'est l'histoire de tout le monde. Parce que tout le monde, on doit laisser ce monde sans mots derrière pour faire partir de la civilisation. Dans son cas, c'est encore plus violent, parce qu'elle a été adoptée et refaite par la seconde mère. Donc il y a un rapport entre l'enfant et sa mère, l'enfant et ses origines. Mais le rapport avec Daniel, c'est le rapport qui les sauve tous les deux. Parce que dans tous mes livres, il y a un peu ça. C'est peut-être religion, je ne sais pas.
De sauver ces personnages ?
Que la rencontre avec le différent de toi, avec l'homme. Ouais. Je suis une femme.
L'homme.
Voilà, l'homme. Un homme. Un frère. Voilà. Un ami.
Oui.
Un amant.
Oui.
Quelqu'un qui est différent de toi. C'est aussi le miroir le plus beau. Parce que ça te redonne ce que ne peut pas te donner quelqu'un qui te ressemble trop. Elle te renvoie quelque chose qui est différent de toi et qui te fait voir la vie plus large, plus, possible. Et même dans les disputes, ils ont des disputes très fortes.
Ce qui est très beau dans ce livre, c'est que le lecteur est mis en face de deux personnages qui partagent au fond la même quête, la même recherche, celle de comprendre l'amour que se vouaient leurs parents. Et c'est vrai que souvent, quand on est enfant, et c'est vraiment le sujet de le plus important, quoi. C'est ces deux êtres dont on est finalement le produit et le fruit. Comment se sont aimés ses parents? Sauf qu'ils ne se connaissaient pas, je vous cite, « Derrière le masque de leurs traits tirés comme des vêtements trop étroits, on perçoit une autre forme qui vient de l'intérieur et les rend identiques, être d'une espèce différente de la nôtre, voyageurs du même train, amants d'un royaume qui nous est inaccessible. » C'est ce que dit la narratrice. Alors dans votre œuvre, dans celle de votre père aussi, moi je me souviens de L'Incompris, le thème de l'enfance qui regarde de façon à la fois curieuse et impressionnée, avec de l'excitation et de la peur à la fois le monde des adultes, ça revient, cette idée-là. Comment, là, avez-vous décidé de bâtir deux personnages qui tentent, au fond, de percer le secret d'un amour que leurs parents ont emporté dans la tombe, dans la mort?
Disons que le fait, la différence, c'est que ce sont leurs parents, mais ce ne sont pas les parents des deux. Ce sont des amants. Donc, la recherche devient plus possible et plus difficile. Donc, ils peuvent regarder l'autre sans que ce soit son père, et l'elfe sans que ce soit sa mère.
Donc, ils peuvent s'aimer surtout aussi.
Et eux aussi. Et voilà. Ils s'aiment d'une façon très particulière. On ne va pas tout dire, mais ils remettent en question l'amour parce qu'ils voient que l'amour, le fait qu'elle, surtout la mère, s'est dédiée totalement à cet homme qui avait une maladie. Après, quand le fils arrive, il va dévoiler ça. Ils sont complètement dans le truc « qu'est-ce que c'est vivre ?»
Alors justement.
C'est ça le thème « qu'est-ce que c'est vivre ?» dans le sens que rien ne remplit cette sensation qu'on a dans l'enfance. Même dans la plus terrible des enfances, révèle le fait qu'on se lève, on met les deux petits pieds nus à côté du lit, on se le met debout et on dit « on est vivant aujourd'hui ». Et ils refont ça, un peu tout ce parcours ensemble.
Est-ce que finalement le titre répond à cette question? Je vous cite encore. Qu'est-ce que ça veut dire être en vie? Demande Sébastien. Vivant, vivant, qui a jamais été vivant? Tu sais ce que ça veut dire toi? Moi non. Que ceux qui sont vivants dans cette salle lèvent la main. Finalement le titre, c'est une tentative de réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est de essere vivi, comme on dit en italien, être en vie?
C'est une sensation, c'est pas une réponse exacte. C'est la sensation que on est là. Sans penser. Même si on ne pense pas, on est là. Et c'est difficile, nous, et surtout en France, où, disons, l'intelligence et la rationalité, c'est la chose la plus importante.
Oui, bien sûr.
On m'a appris ça à l'école française, donc je le sais.
Je ne vais pas dire le contraire.
Donc, le fait qu'on est là, on fait cette émission ensemble, non? Et on fait une chose ensemble, c'est tout.
Et est-ce qu'on n'écrit pas pour ça, Paolo Giordano, pour essayer de... Je vais pas dire se prouver qu'on est vivant, mais essayer finalement de percer cette question, parce que beaucoup de gens opposent la littérature à la vie. Enfin, je veux dire, c'est un grand classique, c'est une grande interrogation aussi des écrivains. Quand on écrit, est-ce qu'on vit? Parfois, même les gens opposent la vie à la lecture. Un adolescent qui lit trop serait un adolescent qui ne vit pas assez. Est-ce qu'au fond, on ne devient pas écrivain pour répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est être en vie? Et je vais montrer que moi, ma façon d'être en vie, c'est de coucher sur le papier des choses vivantes. Voilà.
Je suis d'accord avec eux qui disent, con quelli che dicono che.
Je suis d'accord avec ceux qui disent que ceux qui lisent ne vivent pas.
Ah oui.
Et encore di più che chi scrive per me io so
di scrivere. Et encore plus, c'est encore plus vrai pour ceux qui écrivent. Moi, je sais, j'écris parce que j'ai des grandes difficultés.
Mi capita. Mi capita proprio in questo periodo in cui ho appena finito.
Ça m'arrive en ce moment où je suis en train de terminer un livre, où j'ai terminé un livre que j'ai écrit pendant 4 ans. Et j'avais l'intention de me prendre une période de pause, un vide mental. Mais en fait, au bout de 2 semaines, j'ai eu ce besoin imminent de penser à une histoire, de penser à quelque chose.
C'est une espèce de... dipendenza, ma mi rendo conto che
c'est une sorte de dépendance en fait.
Vivere nel senso di vivere basta è qualcosa che
je ne sais pas vivre, en tout cas vivre et puis c'est tout. Et comme disait Cristina, ça me fait retourner vers mon enfance.
Oh, mais ça, c'est pas grave, Paolo Giordano. Est-ce que c'est pas.
C'est vous pas grave.
Voilà, vous comprenez, Christina, ce que dit Paolo Giordano ? C'est-à-dire qu'en fait, on écrirait parce qu'on, justement, on ne sait pas vivre et que le retour à l'enfant serait vu comme une manifestation de cette impossibilité à vivre. Basta, vivre et c'est tout.
Mais moi et Paolo Giordano s'étaient rencontrés au Premio Strega. Je ne le connaissais pas et je suis très d'accord sur tout ce que tu dis. Donc, on devrait se rencontrer un peu plus. Parce que c'est exactement ça. Quand j'ai essayé d'écrire ces paragraphes où l'enfant qui ne pouvait pas parler, je devais utiliser des mots. Mais elle ne les avait pas. Donc ça a été un effort incroyable d'essayer de revenir avec les mots à un temps antérieur aux mots. Et je pense qu'il y a toujours dans l'écrivain quelque chose qui est comme une espèce de nausée par rapport au fait que quand il écrit, il essaie de figer sur la page. Un truc qui passe dans la vie, qui est passé, qui a cette espèce de chose éphémère, qui est belle pour ça. Et quand ça devient un métier, on assume ça parce que c'est notre métier, ça donne, j'espère, de la joie à qui lit. Mais en même temps, on sait très bien que dans ces moments-là, on prend un vice qui est le vice qu'on essaye d'écrire tout le temps. Et puis, quand on vit, on essaye de vivre et on pense à quoi on écrit. Donc, ça devient une angoisse. Mais c'est le poids qu'on a, c'est notre métier. Mais en même temps, il faut le dire, c'est vrai. Quand on oublie de temps en temps, on est bien. Et on oublie parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on fait quelque chose, une promenade seulement. On est très content parce qu'on ne pense pas à l'écriture.
Ouais. Tout à l'heure, vous parliez de ces personnages qui avaient choisi Athènes et vous parliez de la Grèce comme notre origine à tous. Est-ce que finalement, le fait d'avoir choisi pour vos personnages, qui sont des Italiens, de les emmener à Athènes, est-ce que c'est aussi une façon de mettre à distance l'Italie pour retrouver finalement l'origine de l'Italie, c'est-à-dire la Grèce ?
Oui, d'un côté, j'ai toujours...
Parce que les Romains adoraient les Grecs, oui. Vénéraient les Grecs.
Oui, mais en même temps, la Grèce... Tant j'aime la Grèce pour y aller de temps en temps, j'adore ça. Mais je pense que c'est. Mais j'ai compris ça.
Je parle de vos personnages.
J'ai compris ça après. J'ai compris ça après. C'est vraiment l'idée du dualisme. C'est-à-dire que notre raisonnement, notre façon de. C'est l'origine de la dialectique de ce qu'on est en train de faire là, maintenant. C'est de parler et d'essayer de trouver toujours une vérité avec le dialogue, la conversation, le dualisme. Tandis que ce que recherche le livre, c'est une espèce, dirons, de différence, mais d'être deux choses en même temps même. D'essayer de ne pas toujours essayer avec le raisonnement et l'intelligence de diviser les choses. Voilà, d'être intelligent, entre guillemets. En même temps, oui, c'est aussi ça, c'est que la Grèce est un peu l'origine de l'Italie et donc, c'était intéressant d'y aller. Et puis, c'est un peu, en même temps, le Athènes a ce côté monumental, incroyable, très beau. Et puis, immobile aussi. Qui est là, il nous regarde, immobile, très immobile.
Vous avez parlé d'un personnage qui ne trouve pas ses mots au départ. Elle travaillera dans le cinéma comme monteuse. Vous avez choisi de la placer aussi. Donc, c'est à la fois la Grèce
et à la fois
le cinéma. « Seule ma réconciliation avec l'écriture a été tardive, dit-elle. C'est peut-être pour cela que je suis monteuse, pour raconter une histoire. Je relis IE, le fait de relier. Je relis des images. Quelle importance a ce choix de métier dans la construction du personnage ? Vous êtes vous-même cinéaste. On est aujourd'hui dans une époque où on voit, quand on regarde les jeunes gens, etc., via les réseaux sociaux, etc., ils communiquent par image. On a l'impression que le mot est en danger. Est-ce que vous avez voulu finalement jouer sur cette problématique image-mot et peut-être faiblesse du mot face à l'image en choisissant quelqu'un qui est dans le cinéma ?
Disons que peut-être qu'il y a quelque chose de ma vie, mais j'ai connu des monteuses qui sont des monteuses extraordinaires. Mais ne peuvent pas expliquer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils te disent, non, attends. Et moi, je dis, quel est le principe ? Non, je ne sais pas, mais ça doit être comme ça. Donc, j'aime aussi ça que j'ai plus, parce que je suis plutôt du côté des mots. Évidemment, j'ai fait un choix, mais quand j'assiste au fait que le travail te fait rentrer dans une sorte que tu sais que l'image, elle parle toute seule. Et donc, je pense que pour Catherine, qui a eu cette enfance, c'était vraiment ça. Maintenant, il y a l'excès de ça, et aussi c'est une tendance et une sensibilité très très moderne et très des jeunes. Et je ne sais jamais juger. Évidemment, ça devient très encombrant par rapport à la lecture et par rapport au monde, ça sûrement.
Et qu'est-ce que vous préférez faire, vous, des films ou des livres ?
J'aime écrire. Et même les films, pour moi, commencent par une écriture. Je ne pourrais pas renoncer à l'écriture, que ce soit théâtre ou livre ou cinéma. Tout part de là. Donc, je ne suis pas un metteur en scène pur dans le sens des gens qui imaginent tout de suite l'image. Moi, j'écris d'abord.
Vous écrivez d'abord, toujours.
Toujours.
C'est pas l'image qui parle, c'est
non,
pas.
Non, l'image vient après, disons.
Je voudrais juste qu'on refasse un dernier hommage à Zorba le Grec. Donc, Daniele, plusieurs fois dans le roman, donc le personnage du garçon, hein, dans ce couple, entre guillemets, est identifié plusieurs fois au personnage de Zorba le Grec. D'ailleurs, il cite certaines de ses paroles. Viens, je vais t'apprendre à danser comme Zorba. On s'en fout que tu boites, puisqu'elle boite, hein, cette héroïne. Tu dois danser. Quel rôle joue cette danse? On a l'impression qu'on est un peu, on parlait de la Grèce tout à l'heure, moi j'ai pensé à la figure dentée dans la mythologie, qui a besoin d'être connectée à la terre pour reprendre des forces, ou on pourrait dire que c'est Dionysos qui est à l'œuvre. Voilà. On a l'impression que c'est vraiment le livre du retour, quoi. Retour à l'amour qu'ont senti les parents, retour à la terre, à l'alma mater grecque, retour au corps.
C'est sa dernière chose. C'est le retour au corps. C'est le sens que le corps porte dans ses marques. Il porte son histoire. Le corps, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on a un cerveau et un corps. On a un corps et le cerveau est dans le corps.
Et, dedans, ouais.
Et donc, c'est l'idée. Et la danse, ça porte ça. Parce que ça donne l'idée que le mouvement du corps, et là rentre la musique aussi, si on veut, le mouvement du corps, la musique, et ce qu'on pense, qu'on est, tout est ensemble.
Et donc, quand vous écoutez du Sirtaki, vous pensez au corps, comme Christina Comencini.
J'adore le Sirtaki, j'adore le voir danser, je pense que c'est une musique extraordinaire.
Alors, on aurait pu parler aussi, évidemment, bon, il y a la dimension antique de la Grèce, mais il est question de Patmos, donc cette île où Saint Jean, dit-on, écrivit l'Apocalypse, Apocalypse qui veut dire non pas fin du monde, mais pas seulement en tout cas, mais révélation. Il allait, je vous cite encore une dernière fois, il allait à la grotte de Jean pour me charger en énergie, disait-il. Quand j'ai lu l'Apocalypse, j'ai compris de quelle énergie il s'agissait, puisque le personnage allait avec son père à Patmos. Il y a aussi l'idée de revenir aux sources, même aux premières sources littéraires aussi, puisque ça fait partie des premiers textes de notre civilisation.
J'ai après lu que Patmos était dans le livre de Carrère, évidemment.
Et Emmanuel Carrère.
Oui, moi je pense que c'est un livre de maladies, de maladies extrêmes.
Le c'est royaume
dire... non, de... non, pas le royaume, mais l'Apocalypse.
Voilà.
C'est un massé de royaume, c'est un très, très beau livre, très beau livre. L'Apocalypse, ça, les démons, le père qui est malade, très malade, malade psychiquement, il l'emmène là parce que c'est une espèce d'imagination, d'enfer, de sens du culpabilité, de démons et tout ça. Et l'enfant est très terrorisé. Il pense qu'il doit se battre contre tout ça pour que le père soit bien. Donc j'ai vu ça comme une origine de la maladie.
Alors c'est drôle, vous tourniez d'ailleurs vers Paolo Giordano. C'est vrai que le dernier de vos récits publiés en France, Paolo Giordano, Les humeurs insolubles, est plein aussi du souvenir des origines, de la mémoire, du souvenir des disparus, du souvenir des morts. Parce qu'au fond, votre livre, c'est aussi ça, Christina. C'est quel rapport on entretient avec nos morts proches. On va en parler avec vous, Paolo Giordano. On vous a un petit peu en avant-première aujourd'hui dans le temps des écrivains, puisque votre dernier livre qui va sortir en Italie, Devorare il cielo, Dévorer le ciel, ne sortira que dans un an en France, vous reviendrez. Mais il est question dans ce livre qui va sortir de la terre qu'il faut protéger de la prédation de ceux qui y habitent aussi. Donc il y a cette idée aussi de protéger la mémoire, de conserver les choses.
Sì, è strano, anch'io mi ritrovo in moltissime cose che...
Oui, c'est étrange, je me retrouve dans beaucoup de choses que dit Christina.
C'est bien, vous êtes vivants tous les deux, voilà.
E in un certo senso anche Divorare il cielo è un libro su...
D'une certaine façon, Divorare il cielo n'est pas tant un retour,
un luogo,
mais un lieu.
Che è un piccolo pezzo di campagna... un luogo di appartenenza di questi protagonisti.
C'est un petit bout de campagne, un lieu d'appartenance auquel les personnages n'arrivent pas à se détacher.
E questi personaggi non cambiano mai luogo, ma cambiano in continuazione religione, ideologia.
E tutto il libro finalement, ils ne changent pas tant de lieu au fil du roman, mais de religion, d'idéologie. Et à mesure que leur façon de penser change, leur idée sur le monde change, ils transforment le lieu dans lequel ils vivent. Et ça, c'est une chose qui serait intéressante de discuter avec Christina.
Perché di sicuro lei viene da una formazione prima parlavamo di politica, da una formazione ideologica molto
parce più solida. Elle vient d'une formation idéologique plus solide que la mienne, non siamo pas della même génération.
E quello che io vedo nella mia generazione è questa ricerca disperata di una...
Et c'est ce que je vois dans ma génération, c'est cette quête désespérée d'une idée solide pour comprendre le monde.
Et l'ambientalisme, l'attention à la terre qui est molto présente in Puglia.
Et finalement, cette lutte pour l'environnement, cette protection de la terre qui dans le roman est celle des Pouilles, mais c'est quelque chose qu'on peut voir aussi en France.
Dei possibili modi in cui
est une possibilité pour les jeunes de trouver un sens dans ce monde qui manque d'un centre névralgique.
Je pense que ce qu'a dit Paolo Giordano sur le fait qu'il y a deux générations, la mienne et la sienne, qui ont une formation différente par rapport, par exemple, à l'espoir, qui est la base de la politique. Ça, c'est très important. Et c'est peut-être de ça que devrait partir, disons, une critique de la politique à partir des gens qui écrivent. Moi, je vais pas les appeler intellectuels, mais on pourrait s'appeler intellectuels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Pourquoi la génération plus jeune que nous ont perdu ça? Ont perdu la sensation qu'il y a une pensée derrière les choses, qu'il y a un espoir, qu'il y a une pensée, que cette vision n'est pas idéologiquement fixée dans le temps comme ça a été dans nos années, mais qu'elle y est. C'est un désir réel des gens qui vivent et qui veulent avoir un futur. Donc ça, je pense que ça serait, je lance ça comme proposition, de se rencontrer pour discuter de ça.
Eh bien voilà, donc le rendez-vous est prêt. On continue avec vous, Paolo Giordano. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi, vous, Skunk Anansi, Secretly, on écoute.
I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. I've been a friend with unbiased views, and then secretly lust after you. So now you feel about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel we'll be right back.
Gently de Skunk Anansie. C'est le choix de Paolo Giordano qui passe cette heure avec nous en compagnie aussi de Cristina Comencini, deux auteurs italiens qui viennent de participer au festival Italissimo, le grand festival de littérature italienne qui a eu lieu à Paris. Pourquoi ce choix musical Skunk Anansie, Paolo Giordano?
Il libro Divorare il cielo che arriverà fra poco e per me è un po' un vero congedo.
Il libro Divorare il cielo qui est bientôt va bientôt paraître est pour moi une sorte d'adieu à la jeunesse. J'ai toujours écrit sur la jeunesse mais aujourd'hui je lui dis un peu adieu.
Questo gruppo gli Skunk Anansie sono il primo gruppo musicale che io ho visto.
Et ce groupe Skunk Anansie est le premier groupe que j'ai vu en concert, j'avais 14 ans.
E quella sera invece forse stato l'inizio.
Et ce soir-là a été en quelque sorte le début de ma jeunesse.
Et infatti questa canzone compare anche nel libro.
Et on retrouve cette chanson dans le livre, elle apparaît sous la forme d'un clip vidéo qui passait dans ces années-là.
Un videoclip che racconta di una ragazza e di questi due amici maschi.
Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est avec ses amis et ils passent une nuit dehors, une nuit sauvage. Et pour moi, c'est une façon aussi de réfléchir à cet être sauvage de la jeunesse.
Et je vous demande quand même pour les auditeurs qui n'ont pas la chance de vous voir, Paolo Giordano, vous dites adieu à la jeunesse. Vous avez aujourd'hui quel âge exactement?
35
ans, donc voilà, l'âge des adieux à la jeunesse. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de La solitude des nombres premiers, roman paru en 2008. Vous aviez 26 ans, absolument phénoménal, succès mondial, une trentaine de traductions, deux prix, le prix Campiello, première œuvre, et le prix Strega, qui est le prix le plus important en Italie, remporté par Moravia, par Primo Levi, par Umberto Eco. Après ce livre qui s'intéressait justement à la jeunesse, aux vies parallèles de deux adolescents malmenés par la vie, il y a eu Le corps humain, roman qui se situait lui en Afghanistan, au cœur de la guerre, avec l'histoire d'un peloton de soldats italiens envoyés dans cette Asie centrale en mission de paix, comme on dit. Et puis les humeurs insolubles qui résonnent beaucoup avec le livre de Cristina Comencini. C'est un court roman familial qui s'intéresse aussi à un couple qui a besoin d'une troisième personne en fait pour être un couple. Cette troisième personne, c'est la servante au grand cœur, en fait, celle qui s'occupe de leur enfant et qui est contrainte finalement de quitter la maison à cause d'une maladie, qui doit affronter la maladie. Donc elle va laisser ces deux personnages finalement face à, on parlait de miroir tout à l'heure, face à ce miroir trouble qui est l'autre. Et je voulais vous demander, ce qui est très intéressant, Paolo Giordano, c'est que vous avez reçu une formation scientifique. C'est assez rare dans le monde. Tiens, vous êtes docteur en physique théorique et on en voit la trace dans les titres de vos textes, hein, les nombres premiers pour les maths, le corps humain, les humeurs insolubles. Les humeurs insolubles qui font écho à la fameuse théorie des humeurs antique puis médiévale. Qu'est-ce que vous a apporté en tant qu'écrivain cette formation scientifique?
In fisica mi occupavo di una parte.
En physique, je m'occupais d'une partie de la physique théorique qui s'appelle la phénoménologie.
Et che quindi ha come interesse la descrizione del comportamento.
Qui s'intéresse à la description du comportement des particules élémentaires.
Et credo che quel tipo di sguardo, uno sguardo fenomenologico sia.
Et je pense que ce regard phénoménologique est celui qui me vient le plus naturellement aussi en tant que romancier.
Nel corpo umano osservavo questo gruppo di soldati.
Et dans mon roman Le corps humain, j'explorais ce groupe de soldats dans cet environnement qui était comme un étrange laboratoire humain finalement, cette base militaire.
Et qui in les humeurs insolubles. Forse cambia questo laboratorio.
Et dans les humeurs insolubles, c'est un laboratoire différent.
Cerca di esistere e quindi cerca di essere. Cerca lo sguardo di qualcuno.
On est dans cette petite maison avec cette jeune famille qui tente d'exister, qui cherche le regard de quelqu'un pour confirmer son existence. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on a tous besoin à tous les âges.
On a l'impression d'ailleurs, quand on vous lit de concert, Cristina Comencini et Paolo Giordano, que cette notion de laboratoire, elle vous est commune. On a l'impression, mais je me trompe peut-être, que la méthode romanesque est fondamentale chez vous, Paolo Giordano, que vous regardez, c'est peut-être votre parcours de scientifique, mais que vous regardez vos personnages, vous les mettez finalement, c'est presque comme un dispositif. L'Afghanistan avec le corps humain, cette petite base militaire, laboratoire, mais dans les humeurs insolubles, regardez comment va fonctionner un couple presque à la loupe une fois qu'on a enlevé l'élément qui faisait tenir ce couple, cette troisième personne, cette servante qui s'en va.
mi piace rinchiudere i miei personaggi in dei posti dove riesco a capirli.
J'aime bien enfermer mes personnages dans des lieux où je peux les comprendre, parce que je pense que le monde, dans sa globalité, est un endroit difficile à déchiffrer.
Et dopodiché, non si tratta di muoverli. Non mi piace, odio l'immagine dello scrittore che fa fare delle cose.
Et je n'aime pas trop l'idée de déplacer ensuite, de faire se mouvoir les personnages dans ce monde.
Ci va così tanto tempo per scrivere un romanzo. Perché quasi tutto quel
dans le sens que je n'aime pas les écrivains qui disent qu'ils font faire des choses à leurs personnages. Pour moi, en fait, on prend tant de temps pour écrire un roman parce qu'on doit observer ces personnages et accepter que ce sont eux, par leur propre volonté, qui vont se mouvoir dans cet univers qu'on a créé. Et en ça, je pense que l'écrivain est en quelque sorte passif.
Non, mais c'est incroyable parce que moi, je fais exactement la même chose. Ouais. Exactement. Mmh. Et en plus, quand j'essaye de mettre ma volonté, les pages, je les déchire parce que ça ne fonctionne pas.
Donc, on se laisse totalement...
Oui, c'est une rencontre vraiment... Est-ce que j'ai ton téléphone?
Mais c'est-à-dire que, c'est étonnant quand même, c'est-à-dire que l'écrivain, enfin pour vous deux, serait un être qui doit suspendre sa volonté.
C'est comme une éponge.
Oui, c'est ça.
Tu dois attendre, parce que tu ne peux pas leur faire faire des choses que toi, tu veux.
C'est eux les personnages existent par eux-mêmes, en fait.
En toi, en toi.
Sì, poi è strano perché è anche antipatico sentire quando... Si diventa troppo romantici sul fatto.
Alors c'est étrange aussi parce que je trouve un petit peu désagréable quand on entre dans ce discours trop romantique, quand on dit ah, mes personnages me manquent ou mon personnage m'a parlé. Vous ne m'entendrez jamais parler comme ça.
Però è vero che quando usiamo la nostra volontà prendiamo delle decisioni banali, automatiche.
Et finalement, quand on utilise notre volonté, quand on écrit, on prend des décisions banales, automatiques, et on entre dans des clichés, quand on écrit avec la tête. Alors que quand on accepte cette attente, eh bien, on accepte que nos personnages peuvent aussi être plus imprévisibles.
Forse Cristina, che è anche una regista.
Et Cristina, vous qui êtes justement réalisatrice, vous le savez, quand on travaille avec des gens en chair et en os, ce sont des choses qui arrivent, cette imprévisibilité.
Si, moi, je leur dis catégoriquement de ne pas penser à ce qu'ils disent, parce que de toute façon, ils pensent autre chose. Donc, d'être toujours complètement double et de ne pas savoir exactement ce qu'ils disent. Donc, je fais la même chose avec les acteurs.
Ça va vous plaire, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense aussi comme vous, c'est Émile Zola, le grand écrivain français, dans la préface de Thérèse Raquin. Il l'écrivait « Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. » Et dans la même préface, il écrit « Qu'on lise le roman avec soin, on verra que chaque chapitre est l'étude d'un cas curieux de physiologie. J'ai simplement fait sur deux corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres. » Finalement, c'est ça. Voilà.
C'est bien dit.
Il n'y a pas de volonté non plus. Pour terminer cette émission, je voudrais avoir votre avis sur tous les deux, sur quelque chose que j'ai ressenti en vous lisant. C'est-à-dire que l'idée de la beauté, mais de la fragilité des relations humaines que vous sublimez en même temps. Je vous cite Paolo Giordano. De nous trois, Emanuele, c'est le petit garçon en fait qui était élevé par cette dame qui est partie. De nous trois, Emanuele est le seul à ne pas savoir que rien n'est éternel dans les relations humaines. Il est aussi le seul à ignorer que cela ne constitue pas nécessairement un inconvénient. Ou alors plus loin, il a compris que les êtres s'éloignent, les êtres s'en vont, point final, pour toujours. Mais pas nous. Il ne nous le permettra pas, du moins pas tant qu'il nous gardera aussi unis. Et enfin, troisième citation, à la longue, tout amour a besoin d'un spectateur qui le voit et le reconnaisse, qui le confirme de l'extérieur. Sinon, il risque d'être pris pour un malentendu. Sans son regard, nous nous sentions en danger. C'est terrible ce genre d'observation implacable. Tout amour a besoin finalement de quelqu'un qui est en dehors de ce couple pour dire qu'il s'aime, quoi. C'est un écrivain, c'est aussi quelqu'un qui livre des vérités implacables, Cristina Comencini, Paolo Giordano.
In quello, secondo me, restiamo. Prima Cristina parlava dell'infanzia.
Tout à l'heure, Cristina parlait de l'enfance, et je pense qu'en cela, on reste dans l'enfance sur certaines choses.
Qualcuno che attesti.
Et on a besoin de quelqu'un qui atteste qu'on existe, qu'on aime,
qu'on
écrit, qu'on pense, et ça c'est une nécessité qui perdure jusqu'à la mort, je pense.
Donc un écrivain est un être implacable.
Non, mais moi, ça m'a étonné parce que les citations que vous avez lues du livre, c'est le livre qui sort maintenant en Italie sur la séparation. Ouais. Donc sur la déchirure et sur le fait qu'on ait réussi.
Là, c'était le livre, c'était les insolubles.
Oui, on se parle dans un livre et l'autre.
Voilà, exactement.
Des espèces de communication comme ça. Et donc, que c'est vrai, là, c'est l'enfant, ces enfants qui croient que ça va durer tout le temps. Et nous, on sait qu'au contraire. S'aimer aujourd'hui, c'est très fragile.
L'écrivain, c'est ça, c'est celui qui avertit les êtres humains, comme finalement dans l'Antiquité, que tout est fragile, que rien ne dure.
Mais c'est peut-être le troisième qui regarde le couple lui-même, c'est celui qui écrit. C'est celui qui écrit, le regarde et le raconte, donc ça existe parce que lui le raconte aussi.
Voilà, l'écrivain est le voyeur et le raconteur.
Pour moi, oui. L'écrivain est le voyeur, mais anche quello che continua a credere un po' nell'eternità delle cose, perché se non hai un senso di eternità non
ti metterai mai. Et je pense aussi que l'écrivain c'est celui qui continue de croire en cette éternité des choses, parce que sans ce sentiment d'éternité on n'écrit pas, on se contente de vivre.
Et nous voici revenus au début de notre conversation. Voilà, faut-il vivre ou écrire ? Merci beaucoup, Paolo Giordano. Merci beaucoup, Christina Comencini.
Merci.
Voilà, je rappelle le titre de vos ouvrages. Être en vie, c'est chez Stock de Christina Comencini. C'est traduit l'italien par Dominique Vitoz. Et Paolo Giordano, alors il y a Au seuil, Le corps humain, La solitude des nombres premiers, Les humeurs insolubles. Et on attend donc Devorare il cielo, dévorer le ciel, qui va sortir Au seuil aussi. Merci à vous.
Merci.
Et voilà, et je rappelle aussi que vous étiez unis aussi par un festival qui a eu lieu à Paris, le Festival Italissimo, qui célébrait la littérature italienne. Elle se porte bien, quand même.
Oui, moi je pense que oui. La littérature,
c'est
bien.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Naïd Lancio, Ghislaine David à la réalisation, Claire Levasseur à la technique. Je salue aussi Valentina Gardet, qui vous a interprété Paolo Giordano. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr cette émission avec deux des représentants de la littérature italienne, Christina Comencini et Paolo Giordano.